Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro Moussa Maman de la radio Nomade FM Agadez, une radio partenaire du studio Kalangou. Le forum, c'est un rappel, est diffusé sur l'ensemble des 8 régions du Niger grâce à un réseau de 46 radios partenaires et 6 télévisions. À Agadez, vous écoutez ce forum sur les ondes des radios Nomade FM et Sahara FM. Le forum d'aujourd'hui a pour thème gestion des migrants refoulés d'Algérie dans le contexte de COVID-19 à Agadez. Les mouvements migratoires constituent un véritable problème planétaire. Ce phénomène est lié entre autres aux facteurs comme la mondialisation, l'évolution démographique, les conflits, les inégalités des revenus ou encore les changements climatiques. À l'instar des autres pays du monde, le Niger n'échappe pas à ce phénomène de la migration. La région d'Agadez, du fait de sa position géographique, constitue le carrefour et les couloirs de passage des migrants africains vers les pays du Maghreb ou vers l'Europe. Aussi, des migrants nigériens et ou subsahariens sont rapatriés d'Algérie vers le Niger. Avec le contexte épidémiologique actuel, certaines mesures sont appliquées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, notamment la mise sous confinement de tous ceux qui viennent d'une zone où sévit le COVID-19 et récemment les tests systématiques à tous les migrants. À ce jour, plus de 3000 migrants ont été confinés et pris en charge sur le plan alimentaire par l'Organisation internationale pour la migration OIM pour un coût d'environ 200 millions de francs CFA. De mars à décembre 2020, la région d'Agadez a enregistré 251 cas positifs sur 3851 tests réalisés, dont un décès, selon la Direction régionale de la santé publique. Alors, comment se fait la gestion des migrants dans ce contexte de la pandémie de COVID-19 au niveau des communes et frontières de la région d'Agadez? Quelles sont les mesures prises pour prévenir et lutter contre cette pandémie du COVID-19 au niveau des portes d'entrée des migrants? Comment s'est fait la prise en charge des migrants refoulés vers Agadez? Pour en débattre, nous avons invité Mamadou Malam Adam, chef de service programmation et information à la Direction régionale de la santé publique d'Agadez. Nous avons aussi Mahamat Nour, coordinateur terrain au niveau de l'Organisation internationale pour la migration OIM Agadez. Amadou Alassane, directeur régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant d'Agadez. Nana Henikwey, présidente de l'ONG Mieux vivre avec les millénaires, MVM, actrice de la société civile. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Alors, Mamadou Malam Adam, chef à service programmation et information sanitaire au niveau de la Direction régionale de la santé publique. À ce jour, comment se présente la situation de la pandémie de COVID-19 dans la région d'Agadez?
Bien, merci Monsieur Moussa. Donc, je vais vous donner un peu la situation. Déjà, dans votre introduction, vous en avez un peu parlé. Il y a quelques chiffres qui sont juste à mettre à jour parce que la situation a été réactualisée. Donc, la région d'Agadez a, dans le cadre de la gestion de la COVID-19, a enregistré à ce jour 279 cas confirmés sur 4014 tests PCR qui ont été réalisés. Et il faut peut-être signaler que le premier cas que nous avons enregistré au niveau de la région remonte au 30 avril 2020. Et le dernier cas, c'est le 6 janvier. Donc la situation que je vous ai donnée, c'est la date du 6 janvier. Donc déjà pour la journée du 7, également, il y a un certain nombre de cas que nous avons enregistrés. Mais nous n'avons pas tenu compte de ce nombre de cas. Donc, ce qu'il faut aussi dire, il y a une recrudescence de cette maladie au cours de ces derniers temps. Et quand on prend spécifiquement par rapport au mois de décembre, le dernier mois qui vient de s'écouler, nous avons eu à effectuer 1857 tests PCR. Et sur ces 1857, nous avons eu 123 personnes qui étaient positives à la COVID-19. Et si on remonte à cette année, en 2021, pour les 5 premiers ou les 6 premiers jours du mois de janvier, nous avons enregistré 17 cas positifs sur 48 tests que nous avons eu à effectuer. Il faut noter aussi que toutes les catégories socio-professionnelles vraiment sont concernées. Parce que nous avons des cas que nous avons enregistrés chez des migrants, nous avons des cas que nous avons enregistrés chez des élèves, nous avons des cas enregistrés chez des enseignants, chez les fonctionnaires, mais aussi au niveau de l'ensemble de la population. Nous avons enregistré des cas. Et ce qui est réjouissant, c'est qu'on en guérit de cette maladie. Donc nous avons 195 personnes qui sont totalement guéries, donc contrôlées négatives après leur traitement, et actuellement 74 qui sont actifs, donc qui sont en suivi. Nous avons enregistré un décès, c'était un décès que nous avons enregistré déjà depuis le mois de mai. Mais depuis le mois de mai, vraiment tous les cas que nous avons enregistrés étaient gérés et on n'avait pas enregistré de décès. Donc voilà un peu la situation par rapport à la région pour l'instant.
Alors comment se fait la gestion de cette pandémie dans les communes et les frontières de la région d'Agadez?
Ok, et par rapport à la gestion d'une manière générale d'une maladie qui est à potentiel épidémique, le système est déjà bien en place au niveau national. Nous avons un système de routine qui est fait de deux manières. Donc, nous avons la surveillance au niveau des structures de santé, à travers donc, la recherche des signes pour les gens qui vont venir au niveau de la formation sanitaire, les signes en faveur de différentes maladies, dont la COVID. Mais nous avons le deuxième aspect qui sont les alertes qui sont données par la surveillance communautaire. Donc, ce sont des gens au niveau de la ville qui vont constater qu'il y a une personne qui présente une certaine symptomatologie. Elle arrête systématiquement les structures de santé pour dire, voilà, attention, à tel niveau ou tel village, nous avons telle situation. Et automatiquement, une équipe est dépêchée, on l'appelle une équipe d'investigation et d'intervention rapide, qui se déplace pour aller dans ce village-là pour voir cette personne ou ces personnes-là et essayer de recueillir les différentes informations et recouper l'information. Si maintenant l'information recoupée donne une situation qui est en faveur ou des signes qui sont évocateurs du COVID, il y a un prélèvement d'échantillon qui est effectué au niveau de cette zone. Et ces échantillons sont envoyés au niveau où on fait la confirmation. Donc, il faut retenir qu'à Agadez, il y a trois niveaux où on fait la confirmation. Il y a Arlitz, au niveau de l'hôpital du district d'Arlitz. Il y a un appareil qui nous permet de faire la confirmation des cas de COVID. Au niveau du CHR d'Agadez, également, il y a un appareil. Mais également au niveau de Dirkou, dans la zone de Bilma. Donc, nous avons un appareil PCE qui nous permet également de faire cette confirmation. Et maintenant, si cette personne elle est positive après le test, donc automatiquement, elle est mise sous traitement. Donc, au niveau de frontières, il faut distinguer deux situations. Donc, la première situation, c'était le démarrage. Quand on avait lancé la gestion de la COVID, les instructions étaient de mettre en confinement tous ceux qui rentrent à travers les différentes frontières. La mise en confinement se faisait durant 14 jours. Donc, toute cette vague qui arrive, il faut les bloquer au niveau de la frontière, les sécuriser. D'abord, faire un tri. S'il y a des malades parmi eux, il faut traiter les malades, rechercher les signes, prendre les températures. S'il y a des signes en faveur du COVID, automatiquement, donc, on isole les personnes, on appelle l'équipe d'intervention qui vient pour investiguer et remonter les différents échantillons. S'il n'y a pas de personnes des symptômes qui sont évocateurs du COVID, ces gens-là vont être gardés et surveillés avec prise de température matin et soir au niveau de cette frontière-là durant 14 jours. Maintenant, à l'issue de ces 14 jours, s'il n'y a aucune suspicion, ces personnes sont libérées, un document leur est délivré qui atteste qu'ils ont fini leur confinement et qu'ils sont indemnes de cette maladie et ils remontent. Maintenant, la deuxième situation avec la réouverture des frontières aériennes, c'était le 1er août. Il a été institué qu'au niveau des frontières terrestres, toute personne qui rentre doit systématiquement faire l'objet d'un dépistage au test de diagnostic rapide de la COVID. Donc, on avait disponibilisé ces différents intrants au niveau de la région. Et nous avons notre frontière à Samaka et où nous avons disponibilisé ces différents entrants. Et tous ceux qui rentrent, pratiquement au niveau de Samaka, à peu près 5300 personnes ont été testées au TDR. C'est et des migrants et des refoulés nigériens, mais aussi les migrants étrangers. Donc si on essaie de voir un peu en termes de...
C'est à la frontière algérienne.
C'est au niveau de la frontière. Assamaka, c'est à la frontière algérienne, donc pratiquement à 500 km d'Agadez, 250 km d'Arlit. Donc, sur les 2308 TDR, effectivement, qui ont été faits, 2982 étaient des migrants. Ça, c'était une situation entre le 10 octobre et la fin du mois de décembre. Donc, vraiment, ces tests-là ont été faits juste pour cette période-là. Parce que au moment où on avait annoncé le dépistage rapide, il y avait une accalmie par rapport à l'entrée des différents de refoulés et également des migrants. Donc, c'était ces derniers mois-là, à partir d'octobre, que vraiment le flux avait repris. Et nous avons systématiquement commencé à faire ce dépistage au niveau de la frontière.
Merci. Mamat Nour, vous êtes coordinateur terrain à l'Organisation internationale pour la migration OIM. Comment se fait la gestion des migrants dans ce contexte de la COVID-19?
Merci beaucoup, M. Moussa. Merci pour l'invitation. Au niveau de l'OIM, heureusement qu'avant le début de la crise, l'OIM était déjà présent sur les différents points frontaliers, à noter Dirkou, Siguidine jusqu'à Madama, de l'axe Libye, mais aussi au niveau d'Arlit et Assamaka sur l'axe Arlit. Nous sommes présents pratiquement sur ces deux axes depuis l'année 2016-2017 pour raison de gestion de flux migratoires. Et du coup, avec le début de la crise sanitaire de Covid, nous avons dû ajuster un peu nos actions pour répondre à cette crise. La gestion de flux migratoires se faisait initialement sur ces deux axes à titre un peu transitoire. Le migrant traverse les frontières pour gagner le territoire nigérien pour des raisons de transit, et qu'il passe d'une semaine à 3 semaines maximum avant de regagner leur pays dans le cadre d'un programme de retour volontaire assisté qui est organisé par l'OIM et offert à ces migrants. Étant donné leur vulnérabilité et aussi leur statut particulier, des migrants internationaux et qui ont cette possibilité de continuer leur chemin vers leur pays d'origine avec l'appui de l'OIM et ses partenaires. Maintenant, avec la crise, la situation a pratiquement changé et il a fallu mettre sur pied des dispositifs qui peuvent accommoder ces migrants pendant plusieurs semaines, 2 semaines précisément pour les raisons des confinements. Et très malheureusement, c'est une crise qui n'était pas planifiée. Personne n'avait l'idée, l'information que ça allait venir. Et ça nous a pris tous comme ça, soudainement, tout d'un coup, ça a commencé. Et il a fallu que tout le monde s'ajuste pour pouvoir répondre à cette crise. Comme je le disais tantôt, initialement, nous assistons ces migrants pendant une période d'une semaine à 3 semaines. Et là, avec la crise, la situation est devenue beaucoup plus critique. Beaucoup de structures n'opèrent pas malheureusement normalement comme il le faut. Certaines structures sont carrément fermées. Certains pays d'origine ont les frontières fermées. Certaines ambassades n'opèrent plus. Et pour avoir des documents de voyage, c'est tout un calvaire. Pour organiser même l'aspect logistique, et pour certains migrants, il faut traverser 2-3 pays avant d'arriver à leur destination finale. Donc pour l'aspect logistique, c'était aussi un autre calvaire. Et aussi la fermeture de frontières du Niger pendant un certain moment, ça a duré pendant 2 mois, qui a bloqué aussi. Oui, à un certain moment, nous avons réussi, avec l'appui du gouvernement du Niger, nous avons réussi à sécuriser un corridor humanitaire qui a permis l'acheminement de plusieurs centaines de migrants à travers ces corridors humanitaires. Et récemment, nous avons pu aussi organiser avec les autorités nigériennes compétentes aussi une évacuation aérienne à partir de la ville d'Agadez, ce qui a permis aussi l'acheminement d'à peu près 1200-1300 passagers, ce qui a un peu soulagé la situation. Mais nous continuons à accommoder à peu près 1200 à 1300 migrants dans la région qui sont toujours dans nos mains et qui doivent partir dans leur pays. Pour certaines, ont passé pratiquement 7 mois à 8 mois en transit et c'est des coûts financiers qui sont impliqués pour les maintenir en transit et pour les nourrir, pour donner à boire, pour l'assistance médicale, pour le personnel psychosocial. Et s'ajoute à cela toutes les mesures barrières contre Covid qu'on est en train d'exécuter implémenter strictement, ce qui aussi implique des coûts qui ne sont pas budgétisés dès le début. Donc c'est tout un problème, mais comme je le disais tantôt, c'est tout le monde qui est en train de s'ajuster pour qu'on puisse gérer cette situation.
Monsieur Alassane Amadou, vous êtes directeur régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant à Agadez. Comment se fait la gestion des migrants, particulièrement les enfants et les femmes au niveau de votre institution?
Merci Monsieur Moussa de cette opportunité que vous nous offrez pour traiter de la question donc de la gestion de la migration au niveau de la région d'Agadez et en particulier au niveau de la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Donc la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant met en œuvre d'abord la politique de promotion de la femme pour parler de ces deux secteurs et ensuite la politique de protection de l'enfant. Donc au niveau de la gestion de la migration, Comme vous l'avez dit dans l'introduction, la région d'Agadez est une porte d'entrée vers le Maghreb et aussi une porte de sortie. Et donc, la direction régionale a eu à mettre un dispositif dans le cadre de la protection de l'enfant que nous appelons les guichets uniques de protection de l'enfant. Ces guichets, nous les avons installés au niveau de la frontière algérienne à Assamaka. Nous avons installé un autre au niveau d'Arlit, un autre au niveau de Dirkou, un autre au niveau d'Adarbisenat et au niveau de la commune urbaine d'Agadez, où il y a donc des agents qui se concentrent dans le domaine de la protection de l'enfant, exclusivement donc par rapport à un groupe cible que nous appelons les enfants non accompagnés et les enfants séparés. Donc la direction met en œuvre cette politique de protection par rapport à son mandat qui a été défini dans les documents des SOP, qu'on appelle les standards opérationnels de protection de l'enfant, où la direction donc doit se concentrer sur les enfants non accompagnés et les enfants séparés nigériens. Donc, et depuis Assamaka, donc, nous recevons les alertes de ce que nous appelons les travailleurs sociaux qui sont positionnés à Assamaka et qui travaillent en commun accord avec les autres structures étatiques et les autres structures non gouvernementales comme l'OIM, qui nous transmettent des messages donc, d'alerte par rapport à l'arrivée des convois et dans lesquels ils nous transmettent la liste nominative de tous les enfants non accompagnés qui se trouvent dans le convoi et les enfants séparés, ainsi que leur région d'origine et leur localité. Donc, arrivé à Agadez au niveau du site, donc, nos agents aussi sont au niveau du site pour à l'arrivée du convoi, pour le profilage. Donc, tous les enfants non accompagnés et séparés sont orientés au niveau de la direction régionale de la protection de l'enfant où il existe un centre de transit et d'orientation qui accueille les mineurs. C'est un centre qui a été construit avec le financement du projet DFID à travers l'UNICEF qui a deux pavillons, un pavillon pour les garçons et un autre pavillon pour les filles. Donc, durant cette année, la direction a eu à prendre en charge les enfants non accompagnés et séparés, refoulés de l'Algérie, globalement à la date de à la fin du mois de décembre, 1202 enfants pris en charge, y compris des enfants qui sont dans ce qu'on appelle la mobilité interne, c'est-à-dire des enfants qui quittent d'autres régions, qui viennent à Agadez de l'intention de continuer et donc vers l'Algérie ou la Libye. Donc voilà un peu le nombre d'enfants que nous avons pris en charge et que les paquets d'activités donc, que la direction met en œuvre dans le cadre de la gestion de la migration. Donc, à l'arrivée de ces enfants, nous avons ce qu'on fait, le screening médical de tous les enfants qui passent au centre de transit et d'orientation pour mineurs. Nous avons l'alimentation que nous donnons aux enfants pendant leur séjour, à peu près 72 heures, donc 3 jours au niveau du centre de transit. Nous avons les activités récréatives, la prise en charge psychosociale, la distribution des kits NFI, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas alimentaire, c'est les nattes, les couvertures de froid, les habits, les savons, les chaussures, les seaux, les bouilloires, etc. Et donc, les travailleurs sociaux assurent toutes ces activités pour que les enfants qui ont vécu certaines situations traumatisantes au niveau des pays d'accueil ou sur les routes migratoires puissent être dans les situations, en tout cas pour se sentir à l'aise et que nous puissions donner une réponse par rapport à toutes ces situations qu'ils ont vécu le long de la route migratoire.
Merci, monsieur le docteur. Nana Enikoy, vous êtes présidente de l'ONG Mien Vivre avec le millénaire MVM, actrice de la société civile agadaise. Quelle analyse faites-vous de la gestion des migrants réfugiés d'Algérie dans ce contexte de Covid-19?
Si on regarde les réfugiés de l'Algérie, pour la plupart des cas, les plus de 80%, ce sont des locaux. Ce sont des locaux et ils sont transportés d'une manière vraiment pas humaine, dans des véhicules, et puis ils sont transportés au point zéro, ils sont laissés à leur sort. Et donc, si on regarde aussi le contenu de ces migrants refoulés de l'Algérie, ce sont des femmes, des enfants, souvent mineurs. Et donc, toutes les conditions pour prévenir les maladies, les cas de COVID ne sont nulles respectées. Il y a beaucoup d'insuffisances dans cette gestion. Certes, il y a beaucoup de fonds qui sont déclarés au niveau national et international pour gérer la migration, pour gérer le COVID, mais il n'y a pas d'impact. On voit que dans tous les cas, au niveau de la gestion des réfugiés de l'Algérie, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire, même sans le COVID, je l'ai dit, parce que arrivés à Agadez, ils sont placés dans un site nu. Et ce n'est pas viabilisé, pas de clôture, ce sont des tentes et ça fait longtemps que la société civile essaye de faire le plaidoyer pour que ce site-là soit viabilisé maintenant. Donc les cas de migrants qui sont refoulés de l'Algérie, qui ne dépassent guère les 20%, qui sont récupérés par l'OIM ou le HCR, c'est-à-dire les cas des migrants économiques ou les cas des migrants avec des situations politiques. Donc, c'est insignifiant. Et même eux, il y a des études qui ont prouvé que, et qui ont démontré, une étude de Rich, qui a démontré que ces migrants qui sont dans les sites de l'OIM ou du HCR, qu'on suppose être bien traités et aussi ont beaucoup de besoins qui sont insatisfaits. Surtout dans le domaine, si on prend pour le COVID-19, le domaine de la santé. Donc vraiment, et nous, ce qu'on regarde dans cette gestion des migrations en période du COVID-19, c'est vraiment d'améliorer parce que la gestion des fonds, ils sont dit être alloués à la migration ou à la gestion de la migration en période de COVID-19 ne donnent vraiment pas les résultats escomptés.
Mamadou Mala, madame, vous êtes chef service programmation et information à la direction régionale de la santé publique d'Agadez. Quelles sont les dispositions prises pour réduire les risques de contagion de la maladie à coronavirus au niveau des portes d'entrée des migrants?
En fait, comme l'a dit M. Mamad Nour, bien avant l'avènement de la COVID-19, au niveau des frontières, nous avons un dispositif qui existe dans le cadre de la surveillance des maladies de manière générale, qui a été renforcée justement avec l'arrivée de cette pandémie, malheureusement, qui nous a surpris, on va dire, parce que c'est de façon inopinée. Aucun pays n'a été préparé vraiment à cette situation. Donc, au niveau spécifiquement de Assamaka, donc nous avons plusieurs intervenants dans le secteur de la santé. Nous avons les agents de santé de l'État, qui sont au niveau du CSI d'Assamaka. Nous avons nos partenaires OIM, nous avons MSF et nous avons la Force de défense et de sécurité qui sont au niveau de ce site. Donc, dès l'arrivée des migrants, il y a tous ces dispositifs-là qui est déployé pour pouvoir déjà faire un premier tri des personnes qui sont malades. S'il y a déjà des malades dans le lot, immédiatement, ces personnes-là sont triées pour une prise en charge plus rapide de ces cas. Maintenant, les autres, là, c'est après avoir pris en charge les personnes malades, systématiquement, ils subissent leur test de diagnostic rapide avec la sensibilisation pour le respect des mesures barrières, parce que c'est de ça que ça arrive. Malheureusement, je vous dis, quand vous avez en même temps 1000 personnes qui vous viennent, c'est un peu difficile de mettre de l'ordre. Donc, c'est pourquoi la gestion de la COVID au niveau de ces frontières-là, le premier élément, vraiment, c'est le maintien d'ordre. Nous, on a été, je vous assure, c'était difficile. Donc, pour pouvoir arriver à décanter et bien structurer les gens, leur faire comprendre les mesures, parce que comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, vraiment, le refoulement à partir de l'Algérie, en fait, le gros problème, c'est déjà à partir de l'Algérie, les difficultés. On ne prépare pas les gens, on vient, on les dépose à un niveau, donc avec tout ce qu'ils ont subi comme traumatisme. Donc, c'est un peu difficile quand ils arrivent tout de suite qu'ils intègrent ce qu'on leur dit comme mesure à respecter. Donc, il faut un peu du temps avec de la persévérance donc, pour pouvoir les amener à réellement obtempérer et suivre. Mais soit on arrive quand même à gérer avec tout le staff dont je viens d'évoquer. Et vraiment, ça se passe. Pour l'instant, ça se passe, on va dire bien. Parce que tous ceux qui nous rentrent, en tout cas par les voies légales, subissent quand même leur test, ils acceptent de rester jusqu'à ce que le résultat leur soit communiqué. S'ils sont malades, ils sont pris en charge déjà à Samaka. Et c'est à la fin de leur traitement qu'ils rentrent.
Mamad Nour, quelles sont les mesures prises au niveau de l'EUM pour réduire les risques de contagion de COVID-19 auprès des migrants?
Je m'adhère à ce que M. Adam vient d'évoquer et élaborer. Déjà au niveau de nos centres de transit avancés, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires en termes de prévention, mais aussi la collaboration que nous avons avec la DRSP et le comité régional de COVID nous a permis d'avoir cette étroite collaboration au niveau de points frontaliers, soit à Samaka ou bien à Arlit, même de l'autre axe de Dirkou et de Siguidine. Donc toutes les mesures de prévention nécessaires sont en vigueur et sont d'actualité et on continue une sensibilisation quotidienne et journalière pour que le migrant soit informé. Et on renforce aussi le mesure nécessaire. Un autre élément de réponse pour la raison de prévention. Récemment, nous avons, avec la DRSP, le ministère de la Santé publique, nous avons pu organiser un dépistage de masse où tous les migrants dans le centre de l'OIM ont été dépistés pour COVID. Et théoriquement et pratiquement tous les migrants qui sont dans nos mains actuellement dans nos centres de transit en attente de leur programmation de retour dans leur pays d'origine sont testés négatifs et du coup cela renforce un peu le mesure de prévention. Oui, ils se cohabitent à entrer dans le centre qui ont des capacités limitées, mais on est obligé d'accommoder un peu au-delà de la capacité initiale. Mais le fait que tout le monde est testé négatif et très récemment, ça permet d'être un peu rassuré. Avant de finir, j'aimerais, s'il vous plaît, un peu revenir sur le point abordé par la collègue de la société civile. Il faut noter que, oui, l'OIM, certes, a ses mandats de veiller au bien-être de migrants et assurer leur retour, leur période de transit et les assister pendant cette période et aussi les assister à regagner leur pays d'origine. Mais comme je disais, on ne néglige pas aussi la population nigérienne. On fait pas, pour éviter de créer des discriminations en termes d'assistance, on traite sur un même pied d'égalité le migrant international, mais aussi le migrant nigérien. Et c'est pourquoi, malgré que ce n'est pas un mandat direct de l'OIM, mais compte tenu de la population haute qui sont impactées négativement par cette présence massive de migrants et par étant aussi sur ces corridors humanitaires, nous nous sommes pris ces devoirs à main aussi d'apporter l'assistance nécessaire aux migrants nigériens. Et c'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec les dispositifs de gestion de crise naturelle au niveau de gouvernorat. Et pour améliorer les conditions de transit de ces migrants. Et comme vous le savez, au-delà des 95 à 17% de ces migrants nigériens refoulés de l'Algérie, ils sont d'autres régions qui n'est pas forcément la région d'Agadez. Et c'est les autorités qui les acheminent vers leur région d'origine. Mais nous sommes là en tant que OIM pour accompagner les dispositifs et les autorités régionales pour assurer la prise en charge totale pendant le transit. Et c'est dans cet ordre d'idée qu'on a mis le hangar que vous avez vu au niveau de site Sokoni, le rap-hall, les tentes, le dortoir, les toilettes, l'éclairage public. Ça fait dans bientôt 2 ans et demi ou 3 ans depuis qu'on les a mis et on continue à les entretenir en accompagnant le dispositif. Ces migrants sont aussi, en termes de prise en charge alimentaire, l'OIM le prend en charge pendant toute la période de transit. Et avec la question de COVID, on était obligé même d'ajuster, malgré que ce n'était pas prévu. Généralement, ils font une seule nuit avant qu'ils soient acheminés le lendemain. Mais on a dû ajuster avec de dispositifs financiers qui ne sont pas prévus. On a dû ajuster pour accommoder ces migrants pendant 14 jours de confinement. Les quelques 5 000 personnes confinées, au-delà de 5 ans, à 60% parmi eux seraient de migrants nigériens. Ils ne sont pas étrangers. Donc, on ne travaille pas forcément pour le le migrant étranger, mais aussi on prend en compte le migrant nigérien. Et heureusement pour nous tous, s'il faut dire heureusement, que les Nigériens surtout qui sont refoulés dans le convoi officiel sont acheminés jusqu'à la ville d'Agadez. Oui, les conditions ne sont pas parfaites, mais heureusement, ils sont acheminés jusqu'à la ville d'Agadez où on le prend en charge avant qu'ils continuent leur chemin. Merci. Donc, pour dire qu'on est là aussi pour appuyer les autorités.
Merci. Amadou Alassane, quelles sont les mesures prises au niveau de la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection des enfants? Où sont accueillis les enfants et femmes migrantes pour réduire les risques de la pandémie du COVID-19?
Ok, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit dans la première partie, et la direction régionale en charge de la protection de l'enfant dans le cadre de la gestion de la migration en lien avec la pandémie du COVID-19. On s'inscrit dans la logique toujours de la DRSP parce que nous recevons des groupes cibles qui subissent d'abord les tests depuis au niveau de Samaka à la frontière. Donc les enfants aussi ne sont pas épargnés par le respect de cette procédure. Ils sont testés le long de ces parcours, que ce soit au niveau de Samaka, au niveau d'Arlit et au niveau d'Agadez. Donc au niveau du site, la direction ne prend pas, par exemple, des groupes qui n'ont pas subi ces tests-là de COVID-19. Donc il faut que les enfants qui seront mis à notre disposition, c'est des enfants qui ont été testés et qu'ils sont négatifs à la COVID-19. Et la direction, donc, les amène au niveau du centre de transit et d'orientation. Mais là-bas aussi, au niveau du centre où sont hébergés, donc, les filles, les garçons séparément, les mêmes dispositions, donc, par rapport à la distanciation, par rapport au dispositif du lavage des mains, les ports des bavettes, que ce soit dans les dortoirs ou dans les hangars récréatifs, l'utilisation aussi du gel hydroalcoolique sont respectés aussi bien chez les enfants que chez les personnels qui font chaque fois les entretiens avec les enfants pour renseigner la documentation.
Merci. Lana Henikoi, quelle appréciation faites-vous de la lutte contre la maladie ici à Agadez?
Bon, la lutte contre le COVID ou la COVID-19 et à Agadez s'est fait d'une manière à travers surtout les réseaux sociaux et à travers les messages diffusés au niveau national. Et donc, quelle appréciation on fait de ça? On sent qu'il y a une timidité, il y a beaucoup d'informations et que la population a besoin, par exemple, en langue qui ne sont pas diffusées. Et nous, on a eu à faire des sensibilisations dans les quartiers et on a senti que vraiment les populations ne sont pas beaucoup informées. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a certaines informations fausses ou même beaucoup d'informations fausses qui circulent. Et donc, il y a la direction de la santé qui est là, qui devrait vraiment jouer ce rôle pour vraiment dire les modes de transmission, comment se prévenir, comment vraiment rester. Est-ce que le COVID-19 est lié aux migrants ou pas? Le migrant, c'est un humain. La maladie, elle peut prendre tout le monde. Donc, il faut que tout cela, que vraiment la direction de la santé publique ou bien le comité de gestion de cette maladie puisse prendre en charge cet aspect de sensibilisation. Il faut que les gens comprennent que cette maladie n'est pas liée aux migrants. Il faut qu'on sache que tout le monde peut attraper cette maladie et il faut qu'on sente que et les migrants et la population locale, il faut qu'il y ait une cohabitation entre eux. Et ça, c'est vraiment la sensibilisation qu'on doit faire dans ce.
Mamadou, madame, vous avez écouté Nana. Avez-vous un fonds de gestion des migrants dans ces contextes de COVID-19?
En fait, la gestion d'une maladie, quelle qu'elle soit, n'est pas spécifique à un groupe ou à un tel autre groupe. Du moment où, quand elle vient, elle ne fait pas de distinction. Donc vraiment, nous avons des fonds pour la gestion d'une manière globale et que nous obtenons à travers donc, nos appuis ponctuels de l'État, à travers le comité national, mais aussi les requêtes que nous adressons à nos différents partenaires. Et là, il faut peut-être juste, par rapport aux migrants, signifier vraiment le rôle très déterminant que l'OIM a joué par rapport à cette gestion depuis le démarrage. Parce que comme il a un peu effleuré, Je vous assure, depuis le démarrage, dans le cadre du coup, de la mise en confinement, si on laissait les gens eux-mêmes gérer l'alimentation, rien que l'alimentation des gens qui ont été mis en confinement, c'est pas tenable. Et l'OIM nous a assuré ça. L'OIM nous a assuré la mise à niveau de tous nos points d'entrée pour quand même accommoder les gens par rapport à la mise en confinement. Et également beaucoup d'appui et en médicaments et aussi en intrants pour pouvoir faire fonctionner les différents sites de prise en charge au niveau d'Arlette, au niveau d'Assamaka, au niveau d'Agadez, mais aussi au niveau des autres zones de la région. Mais il n'y a pas de fonds spécifiques dédiés à la gestion spécifique des migrants. Vraiment, c'est des fonds globaux qui arrivent. Bon, les migrants étant dans le truc commun, donc ils bénéficient également de ce fonds que nous recevons.
Comment et où se fait la prise en charge médicale des personnes diagnostiquées positives au COVID-19?
Okay. Pour la prise en charge, nous avons un protocole national qui est défini par rapport à la prise en charge. Donc, c'est un protocole qui est appliqué partout dans le pays. Et à Agadez, on respecte scrupuleusement ces protocoles. Et le protocole, il dit que la prise en charge peut se faire soit dans une structure de soins, soit à domicile. On peut prendre en charge à domicile un cas de COVID, mais il faudrait que les conditions vraiment le permettent. C'est quoi les conditions? Il ne faudrait pas que ce soit une maison où c'est une concession avec plusieurs personnes et que les mesures de distanciation ne peuvent pas être respectées. Donc si c'est une personne qui est isolée, qui peut respecter les mesures barrières après évaluation, on peut lui conseiller vraiment de se traiter à domicile, surtout s'il est asymptomatique. Parce que si vous êtes malade et que vous avez des signes, on ne peut pas vous laisser à la maison. On est obligé de vous amener au niveau du centre de prise en charge. Donc le centre de prise en charge au niveau pratiquement, c'est au niveau de tout le district. Nous avons un centre de prise en charge. À Arlette, il y en a jusqu'à 3. L'hôpital Cominac est une structure de prise en charge à part. La Somaïre est une structure à part en charge de prise en charge. Et le district a une structure de prise en charge. Nous avons mis en place au niveau de Assamaka, qui est le point d'entrée, un isoloir dans lequel s'il y a des cas positifs asymptomatiques, leur prise en charge est assurée à ce niveau. Au niveau d'Agadez, nous avons, au début, c'était au niveau du site Sokoni que nous avons une autre site de prise en charge qui a été mis à niveau grâce à l'appui de l'OIM, mais aussi de MSF. Mais après, donc, ce site a été délocalisé pour être au niveau du pavillon, d'un des pavillons au niveau du centre de régional, hospitalier régional, donc au niveau du CHR d'Agadez.
Monsieur Mohamed Nour, on revient avec vous. Avez-vous un fonds spécial pour la gestion des migrants dans cette pandémie du COVID-19? Si oui, quels sont les besoins que ce fonds couvre?
Oui, comme je disais tantôt au début de mon intervention, nous avons des financements qui sont censés être à couvrir les retours volontaires vers le pays d'origine. Et généralement, comme je disais, le migrant passe d'une semaine à 3 semaines selon les conditions de leur retour, la possession des documents de voyage, la confirmation de leur nationalité, les dispositifs logistiques, ainsi de suite. Donc, maximum, c'est 3 semaines et puis on le met sur la route de chez eux. Malheureusement, avec la crise Covid, tout a été changé. Des migrants qui passent à peu près 6 à 8 mois que nous avons actuellement à main, compte tenu de fermeture de frontières, compte tenu de mesures qui sont en place, compte tenu des problèmes logistiques, des réservations des avions, ainsi de suite. Et du coup, le fonds qui était censé nous accompagner pendant une année est épuisé dans le premier 6 mois de la crise. Au lieu de prendre en charge un migrant pendant 3 semaines, avec la crise, on le prend pendant 8 mois. Et du coup, imaginez-vous ce qui... Je profite de l'occasion pour un peu corriger le chiffre que vous avez abordé lors de votre introduction d'à peu près 200 millions de francs CFA pour la prise en charge alimentaire. Et là, c'était un chiffre de premier 6 mois de la crise, du mars jusqu'à septembre. Actuellement, on est au-delà de 600 millions de francs CFA, sans comptabiliser le jour élastique de migrants qu'on le prend en charge. Et dans ça, vous pouvez énumérer plusieurs activités qu'on a pu réaliser, dont la plupart même des activités qui sont faites à la destination de la population, y compris les sites de prise en charge que M. Adam vient d'évoquer. Ce n'est que la semaine avant-dernière, on a fait une donation d'équipements et des matériels logistiques, et on continue toujours à accompagner le CHR et les sites de prise en charge, qui n'est pas fait forcément pour les migrants, mais pour tout malade de la COVID. On a pu aussi, dans ces mêmes fonds dont je faisais allusion, puis là, des respects bien organisés de missions de monitoring de gauche à droite sur le point frontalière. Avec ces mêmes fonds, on a pu améliorer un peu la capacité d'accueil dans le sud d'accueil. À Samaka, qui était censé accommoder le migrant et les arrivées dans l'Algérie pendant 24 heures à 48 heures avant de les acheminer sur Arlit. Maintenant, à Samaka est censé accommoder 500 à 1000 personnes pendant 14 jours avant de pouvoir les transférer. Le site de Sekoni qui est fait pour le migrant nigérien, c'est un peu le cas. Et c'est un peu partout ce qu'on a été obligé à le faire. Donc, en grosso modo, je peux dire que l'OIM est actuellement vers la fin de son financement qui était destiné pour ce travail de retour volontaire, mais qui a été ajusté pour accommoder aussi la réponse à la crise Covid. Nous sommes en train de mobiliser encore de nouveaux financements pour le moment et nous allons continuer à accompagner les autorités nigériennes dans ce sens.
Merci. Monsieur Amadou Alassane, avez-vous un fonds spécial pour la gestion des migrants dans cette pandémie de COVID-19?
Oui, merci. Donc, pour ce qui est de la disposition d'un fonds spécial pour la gestion des migrants, effectivement, la direction régionale de la protection de l'enfant a un fonds de gestion de la migration qui concerne donc les volets protection de l'enfant. Pas forcément donc en lien avec la pandémie du COVID. La pandémie du COVID, peut-être, elle est intervenue et elle a engendré d'autres coûts supplémentaires. Parce que, dans l'introduction, je vous disais que la direction met en œuvre le projet de protection des enfants dans le contexte migratoire. C'est un financement du DFID, c'est-à-dire le pays du Royaume-Uni, dans 6 pays en Afrique, et donc au Niger, ce projet-là est mis en œuvre par le gouvernement, donc à travers la protection de l'enfant. Et les fonds viennent trimestriellement, ça dépend de tout ce qu'on a eu à budgétiser. On peut avoir dans le trimestre, par exemple, 25 millions pour la gestion des urgences, et avec la pandémie de COVID, il y a d'autres dépenses supplémentaires qu'on intègre dans les requêtes que nous soumettons pour les financements. Et donc, une fois que les fonds sont mis à la disposition de la direction, donc toutes ces activités de prévention et de gestion et des retours en famille des enfants refoulés de l'Algérie sont puisées dans cette cagnotte-là pour faire les activités.
Alors, merci. Nana, enfin, qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité des fonds alloués à la gestion des migrants dans ce contexte de COVID-19?
Bon, et par rapport au financement dans la gestion de la migration dans ce contexte du COVID-19, ce qu'on a à retenir, c'est que sans même, parce que moi, je veux qu'on regarde la situation avant le COVID-19, comment se fait vraiment et la gestion de ces fonds. Donc, ce sont des fonds, des grosses sommes qui sont annoncées, mais il n'y a pas d'impact. Et avec le COVID-19, on sait qu'il y a beaucoup de conséquences néfastes par rapport à la population d'accueil qui est là, qui est très vulnérable et qui est encore plus vulnérable avec tout ce qu'on sait par rapport à la répression de la migration et autres lois qui interdisent vraiment le transport des migrants et autres. On sent que vraiment il y a une population qui n'a pas les moyens de survie nécessaires et qui est vraiment acculée, quoi. Elle est acculée, mais en fait, il n'y a pas de réponse. Les projets qui viennent, ce ne sont pas des projets qui donnent des réponses concrètes à la migration. Si on veut vraiment gérer la migration efficacement, il faut créer des projets structurants, il faut créer des entreprises, il faut faire beaucoup de choses encore plus utiles. Il faut utiliser cette jeunesse-là qui n'a pas de travail. Et donc, pour nous, les fonds alloués vraiment à la gestion de la migration dans le contexte du COVID-19 laissent beaucoup à désirer.
Merci. Les fonds laissent beaucoup à désirer. C'est la fin de ce forum de ce soir sur la gestion des migrants réfugiés d'Algérie dans les contextes de Covid-19 à Agadez. Nous étions en compagnie de Mamadou Malam Adam, chef service programmation et information à la direction régionale de la santé publique d'Agadez. Mahmoud Nour, coordinateur terrain à l'Organisation internationale pour la migration à Agadez. Merci Mamadou Nour pour l'invitation. Amadou Alassane, directeur régional de la promotion de la femme et de la protection de la femme. Nana Henikoy, vous êtes présidente de l'ONG Mieux Vivre avec les millénaires MVM. Mesdames et messieurs, au revoir et à bientôt.